ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Madame le pasteur Florence Vauquely et vous êtes de l'Église évangélique libre de Toulouse depuis 11 ans. Vous venez aujourd'hui nous parler de ce mystère de la passion et de la mort de Jésus qui sauve le monde. Donc, ma foi, j'y crois. Vous êtes vraiment au bon endroit et au bon moment. Vous étiez déjà venu il y a 4 ans discuter de votre foi, de vos convictions. Et vous venez, je crois, aussi régulièrement. Nos auditeurs de Radio Présence connaissent certaines de vos homélies.
Oui, tout à fait. Il y a quelques années, nous animions avec d'autres pasteurs une petite émission, la prédication protestante.
Le dimanche soir.
Oui, hein? Tout à fait.
Faut que ça revienne quand même. On a besoin de ces éléments pour nous nourrir. Et d'ailleurs, nous nous sommes revus il y a très peu de temps lorsque, autour de Mgr Guy Kerimel, nous avons eu, je dis nous, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de partager leur foi dans l'Église, du point de vue œcuménique, de réfléchir sur la création.
Oui, cette rencontre qui a lieu chaque année, effectivement, lors de la semaine universelle de prière et qui rassemble les prêtres, les pasteurs et les diacres.
Orthodoxes, oui. Anglicans, oui. Prêtres chargés de la pastorale et pasteurs.
Oui,
je
oui.
crois que c'est un temps fort.
Tout à fait.
Même
oui.
s'il y en a beaucoup qui ont leur ministère et qui ne peuvent pas venir. Mais nous étions auprès de... d'un spécialiste, Alain Rosac, qui est venu d'ailleurs à cette émission, ma foi j'y crois, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, et il nous a fait à la fois un apport théorique avec une de ses collègues techniciennes, mais aussi un jeu, des ateliers.
Oui. Oui, oui, sur le défi de réduire notre émission de gaz à effet de serre. Alors d'abord, il y avait toute une présentation des défis qui sont relayés aussi par le gouvernement, hein, qui ne sont pas uniquement reconnus au niveau chrétien.
Ou le GIEC.
Voilà,
et d'autres...
tout à fait, oui. Oui. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien au niveau pédagogique. Et ensuite, voilà, ces ateliers pour nous encourager à passer de, en moyenne, 10 tonnes de gaz à effet de serre à une émission de 2 tonnes qui serait, d'après ce que j'ai compris, une émission équilibrée en France, puisque la
pour
France
éviter,
peut absorber. Voilà.
Oui, pour éviter qu'on arrive à 50 degrés centigrades à la fin du siècle, et ça
voilà.
veut dire que ben, c'est pas seulement le niveau de l'eau qui monte avec les déplacements de population, mais c'est tout le monde qui serait vraiment en dehors de cette vie que Dieu nous a apportée depuis la création du monde. Alors, avant de revenir peut-être dans la deuxième partie de l'émission sur la responsabilité des citoyens et des croyants, ensemble, quelle que soit leur foi et leur interprétation de la bonne nouvelle, de l'Évangile, je pense qu'il faut que nous réfléchissions sur ce lien avec cette journée du Vendredi Saint, où chaque année... Chaque année, d'un point de vue œcuménique...
Oui, il y a effectivement une rencontre le Vendredi Saint à midi à la cathédrale, au midi et demi. Et c'est une lecture des textes de la Passion avec des chants, une prédication. Et c'est un temps aussi, un rendez-vous que je ne manque pas depuis que je suis ici. Et c'est vraiment une occasion, je trouve, de faire une pause pour se recentrer sur ce que le Christ a vécu dans ces derniers jours. Ce qu'il a traversé pour nous.
Parce que chaque église, parfois, peut-être avoir une certaine tendance à se recroviller sur certains dogmes ou sur certaines pratiques, alors que l'histoire du monde, est plutôt l'histoire des églises, est marquée par un certain nombre de ruptures, on va dire des schismes, c'est toujours l'autre 14. Depuis la rupture entre l'Occident et l'Orient, et puis les réformes. Alors, Église évangélique libre. Mmh. Peut-être vous pourriez présenter en deux mots votre mission, votre tâche, votre responsabilité comme pasteur. D'abord, une femme.
Oui.
Bon, dans l'Église catholique, ça pose parfois des petits problèmes, mais ça.
Ah, dans les églises évangéliques aussi. C'est très courant dans les églises protestantes réformées et luthériennes, mais dans les églises évangéliques, il y a des courants qui acceptent et qui accueillent vraiment volontiers les femmes pasteurs, et puis d'autres où c'est plus délicat. Dans notre mouvement, c'est assez récent. Voilà.
Mais vous êtes depuis 11 ans en responsabilité, ça veut dire que vous avez une compétence, vous êtes légitime au sens du sociologue hein, qui parle.
Oui.
Alors, ça veut dire quoi? C'est une reconnaissance, comme dirait Pierre Bourdieu. Vous avez étudié théologie, l'exégète.
Alors, j'ai fait 5 ans de théologie, c'est l'équivalent d'un master en théologie pratique. Et puis, bon, mais ça, c'est la compétence théorique. Une fois qu'on arrive dans une communauté, on a une légitimité, on va dire. C'est comme tous les nouveaux emplois. Hein. Quand on arrive quelque part, on a la formation théorique, mais on n'a pas encore les relations ni l'expérience. Donc, si jamais il y avait une légitimité, je pense qu'elle commencerait à arriver maintenant. Parce
oui.
que, voilà, il faut s'appuyer sur tout ce que j'ai pu apprendre vraiment sur le terrain ces 10 dernières années. Les études sont importantes aussi, mais ouais.
Puis chaque communauté est diverse.
Ah oui.
Donc il faut sentir à la fois d'ailleurs de faire l'unité de son église, j'allais dire de sa chapelle, mais c'est pas simple non plus par rapport justement à l'innovation, au progrès.
Mm.
Alors j'aime à dire, comme sociologue encore, que les rites actualisent les mythes. Et c'est chaque fois... Le lien entre une tradition, parce que sinon il n'y aurait pas d'institution, et puis une innovation, parce que notre monde change très très vite. Alors, nous sommes devant ce mystère de Dieu fait homme. C'est déjà un grand mystère
oui.
que Jésus, créateur du monde, Dieu le Père, tous ces symboles qui doivent être interprétés déjà à l'intérieur de chacune des églises, et puis dans un échange qui... ne soit ni suspect, « Ah, oh, toi, tu blasphèmes » ou « Toi, tu n'es pas dans la ligne ». Donc, revenons à ce vendredi saint.
Mm-hmm.
Pourquoi saint? Et d'abord le jeudi, bien sûr, où Jésus, c'est la scène,
oui.
c'est le repas partagé. Et puis, bon, nos amis juifs débattent avec nous pour savoir si, effectivement, le Sanhédrin a pu se réunir un soir, à la veille du Shabbat. On va laisser ça aux historiens, mais plusieurs de nos amis sont venus ici.
Mm-hmm.
Hein, depuis Madame Monique Lise et puis d'autres personnes. Et nous reprendrons ces questions. Mais la passion telle qu'elle est évoquée dans Saint Jean, qui était témoin. Alors, en deux mots peut-être, nous pouvons le dire, comment vous le résumeriez, ce mystère et cet élément très important de la foi?
Alors, c'est vraiment difficile hein, de résumer parce que je pense que c'est le cœur, vraiment le cœur de la foi chrétienne.
Ma foi,
on fête beaucoup,
crois.
Oui. On fête beaucoup Noël, mais Pâques et ce qui précède Pâques est tellement central dans notre foi.
Alors, justement, cette passion,
oui.
nous allons la dire de manière un peu innovante vendredi prochain, puisque ce sera. Avec d'abord une lecture de la première alliance, on dit le premier testament, et c'est-à-dire que nous allons redire ce beau passage d'Ésaïe qui a été prémonitoire. Alors, je sais que certains théologiens ont dit « Ah oui, oui, mais alors, chaque fois, on fait des lectures un petit peu tordues, parce que, est-ce que c'était vraiment annoncé par les grands prophètes ?» Mais sans revenir sur ces questions importantes, je crois qu'il est bon d'écouter ce que nous dit Ésaïe au chapitre 53, verset 2.
« Devant lui, devant Dieu. » Le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire.
Méprisé, abandonné des hommes, hommes de douleur. Familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien.
En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié.
Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait.
Et nous voyons ce beau chant que vous nous avez apporté parce que il nous redit de manière actuelle cet amour que Dieu nous porte et le remerciement que nous pouvons lui donner. Merci Christophe.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance sa parole, car par sa grâce, il m'a franchi, par sa grâce, il me remit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné
foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Nous continuons notre réflexion avec Madame le pasteur Florence Vaucouli. Vous êtes de l'Église évangélique libre et nous nous sommes retrouvés lorsque nous avons réfléchi sur la manière dont les chrétiens, d'un point de vue écuménique, peuvent travailler pour que la terre, pour que la création soit moins en détresse. C'est le lien que je fais aujourd'hui avec cette lecture de la Passion selon Saint Jean qui va être lue vendredi avant Pâques à la cathédrale, dans une cérémonie œcuménique. Il y aura des chants, genre gospel et certaines chorales qui vont venir pour que ce soit peut-être un peu plus vivant que les chants traditionnels que l'on dit dans certaines églises. Ce qui m'amène à vous poser la question, Florence, c'est que dans les divergences d'interprétation de la lecture de la Bible et puis dans des éléments plutôt de conflits politiques, il y a eu des dissensions.
Oui.
Moi, j'aime parler de la tunique de Jésus qui a été déchirée, puisque au moment de la semaine pour l'unité des chrétiens, nous prions pour que ces divisions ne soient pas une sorte de scandale, mais au contraire un appel à cette unité, comme les chrétiens du Burkina Faso nous l'ont rappelé à travers le partage.
Oui.
Alors, on avait pensé que vous nous diriez quelques petites nuances dans les interprétations de la lecture de Saint Jean. Vous me disiez que peut-être que dans les églises évangéliques, il n'y a pas cette lecture allégorique.
Oui, oui, c'était par rapport à la tunique déchirée. Je dirais personnellement que les divisions dans l'Église sont des divisions dans le corps du Christ qui est uni par lui, mais dont nous ne vivons pas l'unité. Et c'est une souffrance pour lui et une souffrance pour nous. Mais je réagissais effectivement sur la tunique déchirée parce que lorsqu'on voit la mention de la tunique déchirée dans le psaume 22, par exemple, et la mention de la tunique déchirée dans l'évangile, chez les évangéliques, on interprète en disant juste c'était une annonce en quelque sorte ou un accomplissement. Et c'est vrai que dans notre lecture de la Bible en général, on a plutôt une lecture, pas historique, mais on va dire typologique, en essayant de voir quelles sont les correspondances entre le Premier et le Nouveau Testament. Voir comment le Nouveau Testament accomplit les prophéties, en fait. Et en particulier Jésus, bien sûr, hein, comment lui, il accomplit les prophéties, toute cette attente du peuple d'Israël pour un salut. Mais en tant que protestant et en tant qu'évangélique, on est rarement, comment dire, on ressort, enfin, on s'appuie rarement sur une lecture allégorique de des textes. C'est pour ça que j'ai réagi.
Ah, mais on pourrait dire aussi qu'il y a une lecture historico-critique, une lecture marxiste.
Oui, alors là,
des lectures.
Tout à fait, tout à fait.
Et
oui, oui.
J'aime bien dire à ceux qui ont un petit peu de temps que quand il y a eu, il y a 7 ans, l'encyclopédie Jésus, mm-hmm. eh bien, ce sont un grand nombre, plus d'une centaine d'auteurs de toute conviction, même des athées, des agnostiques, nos amis musulmans dans 2 textes, Madame Berger et Leïla Anvar, qui ont interprété comment Issa, Jésus, dans le Coran, a été prononcé. Alors certains vont dire, oui, mais vous êtes dans une radio catholique, vous n'allez pas commencer à faire le trouble dans l'esprit des auditeurs. Et je crois qu'au contraire, lorsque nous rencontrons le dialogue avec les autres, nous pouvons être renforcés dans nos propres convictions. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est ce psaume 21-22, la prière du serviteur souffrant. Nous pouvons être sûrs, en tout cas, c'est très probable, très plausible, que c'est Jésus qui l'a dit, s'il avait encore un peu de force sur la croix, et ça commence par un grand appel à bas.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.
Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, même la nuit. Je n'ai pas de repos.
Toi pourtant tu es saint, toi qui habites les hymnes d'Israël.
C'est en toi que nos pères espéraient. Ils espéraient et tu les délivrais. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre.
Ce psaume 21 a été dit, proclamé, chanté par des générations et des générations. Et je crois que nos amis juifs et même certaines interprétations dans le Coran de ceux qui sont au seuil de la mort ou qui sont en grande souffrance, eh bien, il nous interpelle, et même dans des moments de joie, on peut le dire, le méditer, en pensant à tous ceux qui souffrent aujourd'hui dans tous les pays du monde et qui revivent les souffrances de Jésus sur la croix. Alors, il y a la question un peu iconoclaste des preuves de l'existence de Dieu. Et nous discutions tout à l'heure de Jacques Arnoux. Dieu n'a pas besoin de preuves. C'est la tension entre la foi et la science, où les disciplines humaines, hein, que ce soit la psychologie, la sociologie, et puis les langues, les diverses disciplines, et la foi est un autre ordre.
Oui, alors ce qui est difficile, je trouve, c'est que Dieu se révèle dans l'histoire, il se révèle aux êtres humains, il intervient concrètement, matériellement, mais il est vrai que ces interventions sont toujours des... comment dire, comme des signes à interpréter et à comprendre. Ce n'est pas une révélation massive qui écrase, mais plutôt un appel, une invitation à croire.
Et à nous convertir. C'est pour ça que dans ce débat avec M. Alain Rozac, lorsque nous avons réfléchi sur les quatre niveaux où il nous faut intervenir pour que la création ne sombre pas dans un chaos ou dans une apocalypse. Alors, c'est le niveau de l'alimentation. Il y a le niveau du transport.
Oui, du chauffage et de la consommation et des loisirs.
Nous sommes responsables de cette création et c'est ce qui est déjà vécu à l'intérieur de nos églises. Nous venons, pour certains, de suivre des efforts de carême et de partage. Peut-être dans votre église, il y a aussi cette sensibilité à s'ouvrir à ceux qui viennent sur Toulouse, parce qu'il y a ceux qui viennent de tous les pays du monde et avec qui il faut partager nos croyances, avec des formes, peut-être des sensibilités diverses. Nous avons plusieurs langues et nous avons plusieurs manières de vivre notre foi. Alors, vous aviez... encore un mot d'espérance à nous dire avant de lire ces dernières paroles de l'Apocalypse, puisque pour en revenir au Vendredi Saint, il va être lu une prière universelle sur la solidarité et le partage. Il y aura une quête qui sera offerte pour d'autres continents. Et il y aura aussi cette certitude que tout ne s'arrête pas le jour du Vendredi Saint.
Le Vendredi Saint sans Pâques, ce serait juste la moitié, tout à fait. On est tenu par l'espérance de la résurrection, pour nous-mêmes et pour notre monde.
Et c'est ce qui est dit déjà à travers la lecture de l'Apocalypse. Car nous pouvons conclure par d'abord le chapitre 9, c'est le vainqueur, j'ai vu le ciel ouvert. Alors, toutes les images que fait l'auteur de l'Apocalypse, et puis ce qu'il montre de l'ange qui descendit du ciel, le chapitre 20, mais nous voudrions conclure notre réflexion par cet appel à l'Esprit. Et l'Esprit et l'Église disent « Viens !» Celui qui entend, qu'il dise aussi « Viens !» Celui qui a soif, qu'il approche. Celui qui le désire, qu'il boive l'eau de la vie gratuitement. Nous avons encore un autre verset. « Je suis, dit le Seigneur, l'alpha et l'oméga. »
Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement.
Heureux ceux qui ont lavé dans le sang leurs vêtements. C'est là aussi, Florence, une allégorie sur la souffrance des martyrs, mais aussi sur cette espérance qui nous habite.
Tout à fait, oui.
Merci de cette foi que vous nous avez partagée et nous sommes déjà... un peu avant cette résurrection, et nous pouvons chanter avec le chant que nous avons pris tout à l'heure. À bientôt, merci.
À bientôt.
Et bientôt, joyeuse Pâques.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui